la service d'Edinson Cavani. Un prêté pour un rendu entre les Uruguayens et le Brésilien Coraçao qui est en train de naître.
L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match avec un retour sur les différents championnats de football en Europe et puis la Ligue des Champions. D'abord chez nous en Afrique, les compétitions continentales et en Europe avec la sixième et dernière journée de la phase de poule avec quelques rencontres très 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 intéressantes à suivre mardi et mercredi. J'accueille tout d'abord nos deux premiers protagonistes, Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonjour à vous les amis, quel plaisir d'être en votre compagnie.
Alors même s'il y a la grève, même si c'est compliqué en ce moment du côté de Paris, il garde toujours ce sourire, ce rayon de soleil, Hervé. Bravo, chapeau, comment
mais
tu
fais? Mais c'est normal, mais une grève c'est rien tout ça. On est tellement heureux, on voit du football, on parle de football, on se retrouve entre amis, les gens qui nous écoutent, des auditeurs magnifiques. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie? Donc on ne peut que garder le sourire.
Magnifique, j'aimerais bien être comme toi. Avec nous également, Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Le soleil s'est couché en Italie, sur San Siro. Je suis devant les murs de San Siro. Il y a toute la liste des trophées gagnés par ces deux grands clubs, Milan et Inter. Est-ce qu'il y aura un prochain trophée dans l'avenir, un trophée européen? On ne sait pas, mais demain soir, les foot italiens s'arrêtent parce que Inter-Barça, c'est des bons souvenirs et peut-être du passé et peut-être aussi pour l'avenir.
Alors Simone, je vais te le dire tout de suite, hein, j'ai pris une décision très très importante avant le début de cette émission. C'est de commencer par toi plutôt que par Fred Hermel. C'est. Et maintenant, ce que j'attends, on est habitué au show Fred Hermel, maintenant je veux un show Simone Rovera.
Bien sûr, mais quand même, Messi n'est pas là, donc pourquoi donner de l'importance à quelqu'un qui part du championnat où les plus grands joueurs préfèrent se reposer plutôt que jouer en match de Ligue des Champions? Je ne sais pas.
Parce qu'il y a ce qui paraît, il pense à un classico contre le Real Madrid. Je vais commencer, bien sûr, par toi, Hervé. Les compétitions africaines des clubs, la Ligue des Champions, le Raja qui se relance, le Wydad de Casablanca tenu en échec par Sundowns. Le Raja est allé l'emporter chez Vita Club au Congo. Le Congo avec un tout puissant Mazembe, qui affiche déjà ses ambitions, son patron Mutumbi, il est de retour, et avec lui la force, la puissance du tout-puissant.
Absolument, ça on peut pas dire le contraire. Le tout-puissant est en forme, hein. Après Zamalek, maintenant ils remportent leur deuxième match, donc déjà 6 points pour le TP Mazembe à l'extérieur. En plus, hein, Zesco United, faut quand même gagner 2-1. Ils sont partis sur la bonne voie, et c'est vrai que le retour du boss change pas mal de choses. On sait qu'il avait eu pas mal de problèmes, hein, politiquement. Il pouvait plus rentrer au pays depuis quelque temps. Ça fait quelques mois maintenant qu'il a pu remettre les pieds là-bas. Il a fait le grand anniversaire des 80 ans du club, et d'un seul coup, ce TP Mazembe revient très fort. C'est encore plus important pour eux, Congolais, que le Vita Club, ça va beaucoup moins bien. Et ça fait plaisir à qui que le Vita Club aille beaucoup moins bien? Eh ben, ça fait plaisir c'est à qui? Eh ben, au Raja Casablanca, Raja, évidemment. Et voilà, tout est là. C'est comme ça que j'ai pu rebondir sur le Raja, qui a réussi, à mon avis, une grosse performance, hein, parce que s'imposer là-bas, alors c'est vrai que V Club, depuis quelques temps, ils sont un peu moins bons, ils ont du mal à marquer des buts, parce qu'ils ont une deuxième mi-temps où ils auraient pu faire quelque chose. On va pas dire que c'était une domination du Raja, ce match-là, mais il n'empêche qu'ils ont fait le minimum avec ce but en début de deuxième période. Et surtout, après, ils ont été suffisamment solide pour résister à des Congolais qui ont aussi tendance à vouloir en rajouter toujours un petit peu trop dès qu'ils s'approchent ou dès qu'ils sont dans la surface de réparation. Mais pour le Raja, c'était important. Ça permet maintenant un peu de remettre les pendules à l'heure et de pouvoir se relancer dans cette compétition. Le Wydad, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Ils ont été quand même en difficulté. Je pense même aux occasions qu'on peut avoir à Sundowns, même dès le début du match, hein, avec cette première occasion, un bel arrêt du gardien du Wydad. Mais c'est vrai que ça, pour l'instant, il a manqué quelque chose. Offensivement, il a manqué de justesse, de finesse. Il y a quand même eu des occasions, il y avait possibilité de s'imposer et finalement s'en sortir qu'avec un match nul. Bah, c'est quand même une déception hein, pour l'équipe parce qu'ils espéraient bien sûr plus. Alors, ça reste un groupe très serré. Si on estime, allez, imaginons que Sundowns, par exemple, est l'équipe numéro 1 de ce groupe. Après, ça va se jouer dans un mouchoir hein, avec l'USMA, avec Petro Luanda. Ça va être compliqué à sortir ce groupe. Mais ce qui est certain, il va falloir combattre jusqu'au bout. Et ça sera pas simple. Ce sera pas simple. Et puis, à noter quand même dans cette première journée, puisqu'on on avait parlé la dernière fois des difficultés du Zamalek. Et le Zamalek avec un ancien de Casablanca aussi, qui est revenu sur le banc, Patrice Carteron, qui a pu lancer, lui, pour le coup, sa campagne avec une victoire importante, hein, parce qu'on savait qu'il y avait une pression là-bas phénoménale. On connaît d'ailleurs les dirigeants de ce club. Alors, j'ai lu, je sais plus combien d'entraîneurs en quelques années, mais c'est quelque chose comme une vingtaine en quelques années. Donc, ça paraît totalement hallucinant. Un entraîneur est viré dès qu'il a un mauvais résultat. Et alors, d'avoir battu le Primo de Agosto, hein, qui avait déjà fait des bons résultats les dernières en Ligue des Champions, et bien 2-0, bah, c'est déjà une bonne performance pour cette équipe-là. Ça va peut-être les aider à se lancer véritablement. Mais là-bas, c'est toujours très, très compliqué. Alors, pour Carteron, c'est bon, c'est un bon départ. Mais tant, on verra la suite.
On verra la suite donc pour cette Ligue des Champions pour les équipes maghrébines engagées à l'image et tu en parlais à l'instant Hervé de Patrice Carteron revenu donc aux affaires aux commandes du Zamalek du Caire. On va aller du côté de l'Italie avant de parler de Ligue des Champions. Je sais donc et vous nous le disiez tout à l'heure, tu nous le disais Simone. Je peux pas te vouvoyer et tutoyer Hervé.
Oui, surtout ouais, moi j'aime ouais, pas qu'on me tutoie. Je préférerais qu'on me vouvoie, s'il vous plaît.
Alors je tutoierai d'abord Simone et je vous vouvoierai
avec grand plaisir. On est tous des amis ici.
Exactement. Et nos auditeurs sont nos amis surtout. On est là donc pour parler de football italien. Tu es dans les travées de San Siro pour le match Inter contre le Barça demain. Mais parlons tout d'abord de ce qui s'est passé chez toi ce week-end. Et il s'est passé quelque chose d'inattendu. La Juventus de Turin, le champion qui a mis un genou à terre. Après 4 mois de compétition, la Juve a subi sa première défaite de la saison, renversée 3-1 par la Lazio de Rome. La Lazio impressionnante. L'Inter de Milan reste leader, donc, malgré son match nul concédé face à l'AS Rome 0-0.
Mais oui, tu disais, c'était pas une soirée des premières fois, c'était un week-end des premières fois, parce que ces matchs entre Inter et Roma, j'étais à San Siro vendredi soir, c'était la première fois où l'Inter n'a pas marqué un but de toute la saison. Donc la puissance offensive d'Antonio Conte, Lautaro, Lukaku, Candreva, est restée muette et on pouvait s'inquiéter. Est-ce que ces faux pas de l'Inter va donner des nouvelles ailes à la Juve? Est-ce que la rage qu'on a toujours connue sous l'ère Massimiliano Allegri de cette équipe qui lâchait rien, qui chaque fois qu'il y avait une miette à manger sur la table, la dévorait, on l'aurait retrouvée? Et non, et c'était ça la vraie surprise du week-end. Parce que la Juve, quand il a vu son adversaire avec lui, oui, un genou à terre, parce qu'il avait fait match nul à domicile face à un Roma avec beaucoup de blessés, mais quand même, c'est une équipe qui joue bien et qui a mis beaucoup de problèmes à l'Inter. La Juve allait se déplacer face à la Lazio, une équipe qui depuis 15 ans ne gagnait plus à domicile face au Bianconeri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené au score, il a joué très bien pour 30 minutes et après, c'est perdu, totalement, toute seule. Et c'est pas la sortie de Cristiano Ronaldo, de Pjanic, de Dybala qui a mis au genou la Juve. C'est la sortie de Betancourt pour blessure. Aujourd'hui, un joueur qui n'était pas protagoniste au début de la saison, qui était remplaçant, qui était même derrière tous les remplaçants de terrain, est devenu le joueur plus dynamique, plus important. C'est lui qui fait la différence de la Juve. Et quand la Juve a perdu son moteur du milieu de terrain, elle s'évanouit totalement, toute seule. Elle est disparue du terrain. Et face à une équipe comme la Lazio, qui est très solide, bien organisée, et qui est la meilleure en Italie à utiliser les espaces qu'un adversaire peut laisser, la Lazio a fait ce qu'elle savait faire. Elle a laissé du ballon à la Juve. Elle a pris les espaces quand il fallait. Et elle a frappé fort et a fait mal. 3 fois, 3-1. pour la Lazio donc au final, avec aussi un carton rouge pour la Juve sur un contre où Cuadrado a dû se sacrifier pour empêcher Alazzari de marquer un but. Et là encore, une contre laissée par des erreurs individuelles des positions. Et j'ai dit ça pourquoi ? Parce qu'il y a un gros débat aujourd'hui en Italie. Arrigo Sacchi sur la Gazzetta dello Sport expliquait qu'il faut laisser le temps de travailler à Maurizio Sarri. Mais on se pose la question, est-ce que Maurizio Sarri est en train de chercher, de changer trop vite la Juve, de donner trop de consignes, trop de règles, trop de positions à garder? Il y a une image en début du match où Bonucci va vers son entraîneur et dit « Arrête, on connaît ce que tu dis, on le sait », avec une force même dans ses propos qu'on dirait qu'il recadre son entraîneur. Donc, est-ce que là, à la Juve, tout va bien? Pour moi, non. Et ce n'est pas seulement au classement qu'on voit ça, mais c'est aussi dans la confrontation avec les années dernières. La Juve était toujours première, marquait plus de buts. Aujourd'hui, encaisse plus de buts, marque moins de buts, n'est plus première et à 7 points moins de la saison dernière. Je peux vous dire que les supporters de la Juve qui regrettent Allegri aujourd'hui sont toujours, toujours de plus.
Voilà, donc la Juve en difficulté, bien entendu sa première défaite, on la sent moins sereine, à l'image bien sûr de son attaquant vedette, même s'il a marqué, hein, Cristiano Ronaldo. L'Inter, elle, donc, a concédé ce match nul. Oui, Simone.
Non, lui va un peu mieux, Cristiano. Hein. S'il y a une des petites lumières dans la Juve, c'est que Ronaldo a joué bien pour 45 minutes. Après, à 10 contre 11, lui aussi est disparu de radar. Imaginez, dans une équipe qui doit défendre, déjà est à 10, avec un attaquant qui défend jamais et joue à 9. Et ça explique aussi comment la Lazio a déroulé en deuxième période.
Rapidement encore, pour toujours au sujet de cette 15e journée, une journée qui a confirmé que Naples n'y arrivait décidément pas. La formation d'Ancelotti a en effet enchaîné un 7e match sans victoire, avec un match nul à Udinese. Partout.
Bah, il y a une image que circule depuis samedi sur les réseaux sociaux. C'est la deuxième mi-temps. Naples doit marquer un but pour gagner. Et il y a un joueur qui porte les ballons et derrière lui, il y a sept joueurs qui marchent sur le terrain. Aucune envie de marquer des buts, aucune envie de monter sur le terrain, aucune envie de proposer quelque chose d'offensif. On dirait que les joueurs sont en train de lâcher totalement Carlo Ancelotti. On dirait que les joueurs attendent seulement de voir un autre faux pas de l'entraîneur pour avoir un changement sur le banc. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie en Italie avec un si grand entraîneur. Napoli sûrement n'arrive pas. Et si demain soir, par hasard, Naples n'arriverait pas à faire un bon résultat face à Genk, je pense que l'aventure de Carlo Ancelotti terminerait avant Noël.
Allez, on va aller du côté de Paris retrouver Hervé. Hervé, Marseille, le plein de confiance, 6e victoire d'affilée. L'équipe qui s'est imposée, qui même remonté le score contre Bordeaux, 3-1. C'est juste exceptionnel, limite un peu inattendu, non ?
C'est inattendu. Et c'est exceptionnel. Les deux termes peuvent être utilisés, effectivement, parce que qui s'imaginait voir cet Olympique de Marseille, qui était quand même en grosse difficulté ces dernières années, et puis rappelons-nous avec la fin de l'ère Garcia, hein, ils vont pas en Coupe d'Europe, c'est quand même une grosse déception, des grosses désillusions l'année dernière. Et puis arrive André Villas-Boas, et petit à petit, alors après des débuts, pas nécessairement exceptionnels, mais se met en place tout le système de jeu qu'il veut mettre en place, justement. Et puis, un recrutement plutôt intelligent, hein, parce qu'il leur manquait deux joueurs majeurs, un défenseur central, Alvaro, est arrivé, et ben il fait la maille. Et puis Benedetto, même si depuis quelques temps il a un petit coup de moins bien, là il jouait pas hein, contre Bordeaux, mais même s'il a un petit coup de moins bien, il marque moins de buts, il n'empêche que c'était très important. Et comme me disait Didier Deschamps toujours, pour déjà avoir une bonne équipe en Ligue 1, il faut un bon gardien, un bon attaquant. Alors là, ils avaient trouvé le bon attaquant et ils ont retrouvé le bon gardien. Parce que voilà, ce qui est très, très important à dire aussi, c'est-à-dire que les joueurs qui n'avaient pas été bons les années précédentes, eh ben, se relèvent. Et notamment Mandanda, qui vraiment fait une superbe saison. Et ça change tout. Quand votre gardien est à ce niveau de performance, eh bien, les matchs qui vous échappaient l'année dernière, eh ben, d'une certaine manière, cette année, vous restez dans le coup et puis vous êtes capable de gagner, comme hier, en étant mené. Et autre chose très importante dans tout ce système AVB, hein, André Villas-Boas, c'est aussi le rôle de Dimitri Payet, qui est revenu depuis quatre matchs, parce qu'il avait été expulsé, rappelons-nous, hein, pour des mots envers arbitre, il avait pris quatre matchs de suspension. Et là, depuis, franchement, c'est le maître à jouer de cette équipe. Il avait été énorme contre Lyon. Ça a été un peu celui qui avait lancé toute son équipe pour la victoire. Et hier encore, il a fait ce qu'il fallait. La dernière fois, c'était encore lui qui menait vraiment l'équipe. Donc on sent qu'il y a une solidarité, un état d'esprit remarquable dans cette équipe. Et puis, il faut le dire, alors Fred nous écoute peut-être, mais il n'est pas là à l'antenne en ce moment. Il faut avouer quand même, je l'avoue parce qu'il n'est pas là, parce que sinon je ne le dirais pas, le niveau de la Ligue 1 est quand même pas exceptionnel, et c'est un euphémisme. Ce qui fait que, en ayant une équipe comme ça qui tourne à peu près, eh ben vous êtes capable de faire des séries, et quand vous faites une série dans le championnat de France, d'un seul coup vous vous retrouvez de 14e à 2e du championnat. Aujourd'hui ils sont 2e, bien implantés 2e, 6 points d'avance sur le 3e, même si Rennes a un match en retard. Mais ça veut dire que tout est possible, et on sent en plus, on voit un public qui se met à rêver de revoir cet OM en haut de l'affiche. Donc ça fait plaisir de voir l'OM comme ça aujourd'hui en championnat de France.
L'OM au top, mon cher Hervé. J'aimerais bien aussi qu'on parle Youssef Attal et cette blessure qui va l'éloigner des terrains pendant pratiquement 2 mois. C'est une très très mauvaise nouvelle pour son club Nice. Pour la sélection algérienne, il aura le temps de revenir. Le prochain match officiel, c'est en mois d'août.
Oui, alors pour la sélection, il a un petit peu le temps, il y a pas de souci. En revanche, puis bon, il y aura le rassemblement de mars, mais tout ça c'est pas très très grave. En revanche, évidemment, pour Nice, c'est un énorme coup dur parce que c'est l'un des joueurs clés de cette équipe niçoise. Et là, le ménisque est touché, 2 mois, peut-être 3, sait-on jamais. Donc il va falloir qu'il prenne son temps, son mal en patience. C'est un joueur. En plus, ça va lui permettre, je vais vous dire une chose, peut-être de réfléchir sur son jeu, parce que je pense qu'aujourd'hui, il s'enferme un peu trop dans ses dribbles, il a la sensation qu'il est capable de faire des différences individuelles tout le temps. Et il va falloir maintenant qu'il passe le palier supplémentaire. Moi, j'ai toujours adoré ce joueur-là. Mais là, aujourd'hui, il est un petit peu obtus dans son jeu. Il va falloir qu'il apprenne à donner la balle un peu plus vite, à savoir gérer les temps forts, les temps faibles, à pas toujours vouloir tout faire vite. Donc peut-être que cette absence va lui permettre aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il était en train de faire. Parce que parfois, quand vous enchaînez les matchs, c'est difficile aussi de réfléchir sur soi. Là, ça peut-être être un mal pour un bien pour lui. Pour Nice, ça certainement pas, parce que quand vous délistez d'un de vos joueurs majeurs, de fait, c'est jamais une très très bonne nouvelle. Maintenant, bon, c'est quand même pas une blessure grave, il va s'en remettre, et il reviendra, je l'espère, certainement plus fort.
Allez, ouvrons, mes amis, cette page Ligue des Champions, la Ligue des Champions avec donc cette 6e et dernière journée qui débute demain. 8 équipes sont déjà qualifiées pour les 8e, comme le Paris Saint-Germain, la Juve ou encore le FC Barcelone. D'autres comme Lyon, l'Atlético, l'Inter ou encore Liverpool, Borussia Dortmund. Il joue gros. Parlons d'abord de cette équipe de l'Inter. Tu es à Milan pour suivre et commenter ce match, Simone Rovera. L'Inter de Milan qui a l'avantage des confrontations directes face aux Allemands du Borussia Dortmund. Les joueurs de Conte qui ont donc leur destin en main. Et puis, bonne nouvelle pour eux, Messi n'a pas été convoqué pour ce déplacement.
Il y a un long liste des joueurs. Fred nous racontera mieux. Pourquoi des joueurs de Barça qui ne sont pas partis et entre eux, sûrement, il y a Lionel Messi. Je peux vous dire que j'étais en train de faire une entretien avec Diego Godin quelques secondes après que le groupe de Barça est tombé. Je lui ai montré la photo. Regarde, il n'est pas Messi. Elle a dit avec un petit sourire, il y a beaucoup de grands joueurs au Barça, mais on pouvait sous-titrer son expression et dire c'est bien pour nous. C'est clair que ça change beaucoup des choses. L'état de forme de Messi est extraordinaire, mais ça crée pour l'Inter une occasion que l'Inter doit saisir. Parce que aujourd'hui, les commentateurs italiens sont très clairs en disant que oui, le Barça c'est très fort, il faut faire attention, même les remplaçants de Barça sont de très haut niveau. C'est vrai, mais l'Inter déjà a raté sa chance l'année dernière avec un match nul à domicile en partout face à un PSV qui était déjà éliminé. Cette année, avec une Barça B, parce que c'est vraiment un Barça B qui a la tête au Classico, l'Inter première au classement, l'Inter d'Antonio Conte, l'Inter qui lâche rien sur le terrain, ne peut pas se permettre de faire match nul ou de ne pas gagner face au Barça. C'est vrai que c'est le Barça, mais si l'Inter veut devenir champion d'Italie et veut aller loin en Ligue des Champions, il a un adversaire à sa portée, un adversaire un peu plus faible, il a un adversaire qui jouera quand même au 100% parce que les remplaçants de Barça voudront se montrer. Eh bien, l'Inter au 100% doit battre les Barça B au 100% parce que Lautaro est Lautaro. Lukaku, c'est un joueur qui a une envie et une force incroyable. parce que l'Inter a, oui, beaucoup de blessés, mais l'Inter a une occasion à saisir. Si tu veux redevenir une grande d'Europe, tu dois battre un adversaire à ta portée pour te qualifier. Et c'est vrai que tout le monde en Italie dit qu'il faut faire attention, mais moi je vais plus loin. Si l'Inter ne bat pas le Barça, pour moi c'est un échec.
Voilà, donc si si l'Inter ne bat pas le Barça, mais un Barça privé de plusieurs cadres, et notamment de Lionel Messi, ce serait effectivement un échec. Il y a Dortmund aussi qui est à l'affût. Dortmund qui s'est peut-être un peu réveillé un petit peu trop tard pour prétendre à une qualification. Lyon, c'est encore possible, mon cher Hervé.
Ah, bien sûr, tout est possible. Alors attention, ça dépend pas que d'eux non plus. Donc il va falloir faire attention, hein, puisque il y a aussi le Zénith Saint-Pétersbourg qui est dans la balance. Benfica a aussi une possibilité de se qualifier, hein, si Lyon était battu. Parce que imaginons qu'on ait Leipzig qui gagne à Lyon et Benfica qui l'emporte contre Zénith Saint-Pétersbourg, eh ben Lyon serait quatrième du classement. Donc on n'aurait même pas de Ligue Europa. Donc là, ça va être un gros match pour l'équipe de Lyon, pour Rudy Garcia aussi. Parce que là, je peux vous dire que s'il est éliminé, s'ils ne vont pas en Ligue des Champions, échec majeur pour Rudy Garcia, et échec, une nouvelle fois, de recrutement de l'entraîneur. Puisqu'il a été amené aussi pour passer ce tour en huitième de finale Ligue des Champions. Alors, je vous raconte pas s'il n'y avait même pas de Ligue Europa, là, j'en parle même pas. Sachant quand même qu'à Lyon, Rudy Garcia est sifflé chaque fois que son nom est annoncé. Donc si en plus vous êtes éliminé alors qu'avec Genesio, que vous aviez sifflé toute l'année, vous étiez en huitième de finale contre Barcelone, j'imagine pas ce qui va se passer à Lyon. Les supporters vont en avoir marre de Garcia, il va y avoir encore une ambiance délétère autour du club, et au final, c'est les joueurs qui vont en pâtir parce qu'ils n'ont pas donc un caractère exceptionnel, ce qui veut dire que souvent ils ont tendance à être impactés par tous ces sifflets et de ne pas pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc demain, c'est un match capital pour l'équipe de Lyon. Je pense qu'il y a une méga pression autour des joueurs, méga pression autour de l'entraîneur, parce qu'on n'arrête pas de répéter que Rudy Garcia est l'entraîneur en Europe qui a eu le ratio le plus faible de points par match en Ligue des Champions avec plus de 20 matchs disputés. Alors imaginez, donc c'est quand même pas une stat très 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 folichonne. Et en plus, il a un ratio contre les grandes équipes en termes de victoires qui est très faible. Hein, par exemple, en Ligue 1, contre les 3 premiers ou les 4 premiers du championnat, il doit avoir une ou deux victoires sur une vingtaine de matchs.
On a compris.
Donc vraiment, demain, attention les yeux demain.
Attention, on a compris tout ça. Lyon en danger, surtout son entraîneur. Et puis on suivra avec Simone Rovera, bien sûr, l'Inter de Milan qui vise une qualification, bien entendu, pour le deuxième tour de cette Ligue des Champions. Restez à l'écoute, les amis, la seconde partie de l'après-match, tout à l'heure. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'après-match après l'Italie et la France. On va faire un petit tour, un grand tour même, en Espagne grand, parce que quand on parle d'Espagne, on a Fred Hermel. Et avec Fred, ça peut pas être petit. Fred Hermel qui est avec nous. Bonsoir Fred.
Bonsoir Jalal, bonsoir à tous.
Tu as vu comment je t'accueille ?
C'est bien, c'est bien. Mais c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est.
Et même
la Fred, meilleure Liga du monde.
C'est vrai, le meilleur consultant du monde. Et j'ai même mis la pression à Simone Rovera au tout début de l'émission. Je sais pas si tu étais à l'écoute, en lui disant que j'avais pris une décision très, très importante, un peu risquée, mais bon, importante, de te mettre à la place du boss. Faut que tu sois à la hauteur.
Mmh. Ouais, mais tu sais, quelque part, Simonet sera un jour mon successeur. Tu vois, il est adoubé. Enfin, tu vois, il a cette jeunesse, cette fougue. Mm-hmm. Voilà, oui.
C'est ce que je viens de dire aux jeunes à la régie. Qu'un jour, voilà, mais pas demain. Hein, on cédera ce fauteuil. Hein, Fred.
Ben oui. Ben, c'est un peu comme Cristiano et Messi. Tu vois, chaque fois on dit c'est fini.
Ah, ouais,
et paf, vrai. On met des triplés. Ben oui, on est comme ça nous.
Même pas que Cristiano et Messi, même bien entendu.
Joaquin,
voilà.
38 ans. Mais d'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça parce que c'est quand même.
Ah non. On va pas commencer par ça. On va d'abord. On est des gens bien élevés. On est vieux, mais on est bien élevés. Et donc, on accueille les autres aussi.
Un autre vieux.
Un autre vieux. On va accueillir d'abord David Lortolari. Salut David.
Salut Zolan, salut Fred. Je suis extrêmement vexé, messieurs, comme l'entraîneur du Bayern vexé ce week-end. Et vous savez pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a eu cette défaite.
Eh oui, on va bien sûr en parler. On accueille aussi Aurélien de Vernois. Salut Aurélien.
Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous.
Alors voilà, maintenant on va commencer avec toi Fred, bien sûr Messi qui brille, le Barça qui déroule, qui reste leader devant le FC, devant le Real Madrid, ça a été juste parfait dans le sillage d'un Lionel Messi, auteur d'un triplé, porté, il faut le dire, par son sixième ballon d'or. Le Barça a déroulé 5-2 contre Mallorca et reste premier devant le Real Madrid.
Premier au même nombre de points, comme on va le préciser. Non, mais on va préciser au cas où, tu vois, si jamais quelqu'un...
Il y a un classico qui arrive, c'est justement surtout pour vendre ce classico.
Oui, alors c'est vrai qu'on a vraiment eu le sentiment de voir un Barça bien joué, bien combiné et se faire plaisir sur le terrain. Il y a 15 jours, je me souvenais d'avoir été à Leganés et d'avoir vu un Barça très triste dans le jeu. Là, ils se sont fait plaisir. Et quand des joueurs avec autant de talent se sentent bien physiquement et se divertissent sur le terrain, ben, ça donne ce qu'on a vu avec le hat-trick de Messi. On peut aussi parler de ce but incroyable de Luis Suarez. Espèce de talonnade piquée à, quoi, quand même 2,50 m de la ligne. Et d'ailleurs, le Barça, le soir même, a mis sur les réseaux sociaux les images d'un but de Patrick Kluivert, sous le maillot du Barça, il y a quand même quelques années, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui de Suarez. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel, mais c'est pas la première fois qu'un joueur du Barça mettait ce but. Mais moi, je suis obligé de souligner autre chose. Vous allez me dire, tu parles trop souvent de Ter Stegen. Ter Stegen est l'un des meilleurs passeurs de la Liga. Deux passes décisives, le gardien.
C'est de la folie.
C'est-à-dire que voir Messi marquer un trick, voir Suarez marquer un beau but, ok. Mais Ter Stegen, sur le premier but à la deuxième minute, c'est lui qui ouvre tout. Quand il fait cette passe décisive pour Antoine Griezmann qui part en contre et qui marque d'un joli petit balle piquée contre le gardien. Le gardien Reina, Malone Reina, le gardien de Mallorca. Et c'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il a rétaffé il y a quelques semaines. Il avait déjà permis au Barça de l'emporter grâce à une passe décisive pour, c'est pas un dégagement comme ça. Non, c'est une vraie passe très très longue, très précise. C'était à l'époque pour Luis Suarez. Donc, par exemple, on peut même vous dire que ce Ter Stegen a fait plus de passes décisives cette saison qu'Eden Hazard, que Koke par exemple, ou que Isco.
C'est juste incroyable. Et il y a eu donc ce triplé de Lionel Messi qui passe devant Karim Benzema comme meilleur buteur. 12 buts pour Lionel Messi, 11 pour Karim Benzema, l'avant-centre français associé aux jeunes Vinicius et Rodrigo en attaque du fait donc des nombreux blessés. Tu as parlé bien entendu d'Eden Hazard côté madrilène, a pourtant permis au Real de glaner un 9e match de rang sans défaite avec un but à la 80e et une passe décisive à son compatriote Raphaël Varane à la 37e minute, mon cher Fred.
Alors, il y a deux leaders, c'est-à-dire que dans cette... il y a un vrai duo, un duel, Messi, avant c'était Messi-Ronaldo, maintenant c'est Messi-Benzema, puisque Ronaldo n'est plus là, marque pas beaucoup de buts en Italie, mais Benzema, lui, en met beaucoup, tu l'as dit. Il est le deuxième meilleur buteur derrière Messi. Et au niveau des passeurs, vous savez, quels sont les deux meilleurs passeurs de la Liga espagnole? Eh bien, c'est Messi et Benzema avec chacun 5 passes décisives. Donc, on a deux joueurs qui survolent les débats. Et dans un match qui était vraiment ennuyeux, j'ai été bien entendu
avec,
à Bernabéu samedi.
Mais Fred, avec plus de mérite pour Karim Benzema. Parce que Vinicius et surtout être entouré de Vinicius et Rodrigo, excuse-moi, c'est pas la même chose que d'avoir à son service, bah, tu as parlé de
Suarez et
Antoine Griezmann, c'est pas la même chose.
Je n'osais pas le dire, pour pas qu'on m'accuse de toujours mettre en avant Karim Benzema, mais c'est vrai que c'est Sergio Ramos qui tire les pénaltys, qui tire les premiers pénaltys quand il y en a deux. Le premier, c'est dans un match qui est assez rare, le deuxième, il est pour Benzema, mais sinon, voilà, Karim Benzema... Moi, je pense que Zidane devrait prendre la décision, ou que Ramos, en tant que capitaine, devrait prendre la décision de faire tirer les pénaltys à Karim Benzema. Parce que Pichichi, c'est aussi une motivation, c'est aussi un petit titre, une reconnaissance pour un buteur. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage que Karim Benzema ne soit pas le premier tireur de pénalty, parce qu'il les a tous mis jusqu'ici.
Et Zidane, cette saison. Zidane, mon cher Fred, à ton micro, a évoqué justement le cas Karim Benzema et ses stats juste incroyables. On l'écoute.
C'est vrai qu'on a souvent parlé de Karim dernièrement. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de changer, tout simplement. Enfin, de changer dans le bon sens, mais qui est en train de prendre beaucoup de maturité. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la différence. Après, défaut, on a tous des petits défauts, ou on a tous des choses à améliorer. Mais c'est vrai que lui, dernièrement, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que ce qu'on lui demande, c'est de s'associer avec les autres, de jouer avec les autres, il le fait. Ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts, il le fait. Donc, moi, je n'ai rien à lui demander de plus. C'est juste qu'il continue, mais que l'équipe aussi continue avec lui.
Voilà, donc juste parfait. Et Karim Benzema qui est donc le deuxième meilleur buteur de la Liga, juste derrière Lionel Messi. On va aller du côté de l'Allemagne maintenant, mon cher David, avec bien entendu ce coup de tonnerre encore en Allemagne et la formation du Bayern de Munich dans cette affiche vintage qu'on a vendue et qui, entre l'équipe de Mönchengladbach et le Bayern de Munich, avec une victoire au bout du suspense et au bout du match dans le temps additionnel du Borussia Mönchengladbach, grâce, il faut le dire, à un doublé de l'international algérien Rami Ben Sebaïni.
Oui, Rami Ben Sebaïni. Alors, j'ai bien du mal à vous faire des synthèses qui durent dans le temps. Parce que chaque semaine, il y a des rebondissements, il y a des hauts, des bas. Les montagnes russes avec Dortmund, avec le Bayern cette saison, les deux gros qui sont vraiment, on peut dire en souffrance. Parce que quand on gagne un match et que la semaine suivante, on perd le match qui vient, ça n'a pas grand sens. C'est Leipzig qui en profite, c'est Borussia Mönchengladbach qui en profite aussi au classement. Ben Sebaïni, c'est formidable. Il est l'un des symboles de la réussite, de la chance, j'ai presque envie de dire, du nouvel entraîneur de Mönchengladbach, Marco Rose, cette saison. Des joueurs qui ont des failles, des joueurs qui ont des imperfections, mais des joueurs qui vont dans le sens, qui tirent l'équipe vers le but adverse.
Mon cher David, on va essayer de te reprendre juste après, le temps de régler un petit souci technique. On va aller du côté de l'Angleterre, cette fois pour retrouver donc Aurélien de Vernois, et pour parler de Leicester. Leicester qui a enchaîné un huitième succès de suite, une victoire 4-1 à Aston Villa, notamment grâce à un doublé de l'inévitable Jamie Vardy, et consolide son statut de dauphin de Liverpool. Une victoire qui lui donne 6 points d'avance quand même sur Manchester City. Aurélien.
Alors oui, cette équipe de Leicester, elle est vraiment impressionnante. Hein. On ne l'attendait pas du tout en début de saison, même si, évidemment, c'est une équipe avec beaucoup de talents individuels, avec des Jamie Vardy, avec des Yuri Tillmans, avec des Kasper Schmeichel, avec des Wilfried Ndidi. C'est une équipe qui a des grandes qualités, mais pas forcément taillée pour espérer jouer les premiers rôles en Première Ligue. Et pourtant, sous la houlette de Brendan Rodgers, ils sont en train de faire vraiment des miracles, les Foxes, cette saison. Et ça s'est encore illustré ce week-end avec cette victoire pleine d'autorité sur la pelouse d'Aston Villa. Aston Villa qui est pourtant une équipe qui pose souvent des difficultés aux grosses écuries de ce championnat d'Angleterre. Et c'est vrai qu'on se dit que Leicester, non seulement peut légitimement envisager de finir dans le top 4 et donc de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, mais cette place de dauphin, il va vraiment falloir aller lui la prendre, voire même, pourquoi pas, aller titiller Liverpool jusqu'au bout, parce que c'est une équipe qui ne lâche rien. Alors certes, il y a quelques points de retard par rapport à Liverpool. Certes, il n'y a que 8 précisément, 6 points d'avance sur Manchester City qui est troisième. Mais on ne voit pas vraiment qui peut menacer pour l'instant cette équipe de Leicester, si ce n'est peut-être eux-mêmes une éventuelle baisse de régime dans les matchs de fin d'année, avec le Boxing Day, avec un peu l'enchaînement de matchs. Sauf que Leicester a un gros avantage par rapport à un Liverpool, à un Manchester City ou à un Chelsea, c'est qu'il n'y a pas la Ligue des Champions et que du coup les organismes sont moins mis à l'épreuve, les joueurs sont moins fatigués et légitimement les supporters de Leicester se disent eh ben pourquoi pas refaire un coup comme il y a 4 ans, aller disputer le titre jusqu'au bout et pourquoi pas eh bien le remporter.
Voilà, donc Leicester qui met la pression sur Liverpool, qui pensait avoir un boulevard avec les difficultés actuelles de Manchester City. Manchester City, Aurélien, on commence à parler d'un départ de Pep Guardiola, Aurélien.
Oui, ça ne va pas du tout du côté de Manchester City. Vraiment, l'équipe enchaîne les mauvaises performances ou les performances décevantes. Cette défaite, là, dans le derby à domicile contre Manchester United, elle fait vraiment très mal parce que déjà, City n'avait pas pris l'habitude depuis quelques années de perdre ces rencontres-là. Ils avaient plutôt des bons résultats face à United. Et là, on a senti non seulement que l'équipe n'avait pas su trouver les solutions tactiques face au système de jeu mis en place par Solskjaer, qui avait bien étudié les faiblesses de City à travers notamment les défaites précédentes de l'équipe contre Norwich et contre Wolverhampton. Il a un peu fait le même système de jeu en demandant à ses joueurs de jaillir très vite sur les phases de contre-offensive. Mais surtout, on a trouvé, et j'ai trouvé particulièrement que City n'était pas dans de très bonnes dispositions physiques, que les joueurs piochaient un peu, alors que le banc est quand même assez étoffé du côté de City, plus que du côté de Liverpool, par exemple. Voilà, est-ce que cette équipe de Guardiola a déjà donné le meilleur d'elle-même ces dernières saisons, avec ce fameux titre record avec plus de 100 points, avec cette victoire sur le fil en championnat la saison dernière? Est-ce que le mental est moins là? Est-ce que les joueurs ont peu de mal à continuer avec le système de jeu très exigeant de Pep Guardiola? Est-ce que Guardiola lui-même en aurait pas un petit peu marre, aurait pas envie d'aller voir ailleurs? C'est vraiment ce qui se dit dans la presse britannique d'ailleurs. Beaucoup d'observateurs sont en train de dire que c'est peut-être la dernière saison de Guardiola, que Guardiola mise beaucoup du coup sur la Ligue des Champions pour partir sur un titre, et surtout sur un titre qu'il a plus remporté depuis ses années à Barcelone, et que derrière, eh bien, il irait peut-être voir ailleurs, peut-être reprendre une année sabbatique avant peut-être, là aussi c'est ce qui se dit, de tenter le chemin de mener une sélection.
Voilà donc pour Pep Guardiola. On va revenir en Allemagne, retrouver David. On en parlait tout à l'heure, le Bayern de Munich qui chute contre Mönchengladbach, qui reste donc seul leader, victoire dans le temps additionnel et ce doublé de Rami Bensebaini.
Oui, Bensebaini, alors il fait peur à ses supporters parfois, à Mönchengladbach, dans des gestes défensifs un peu osés, un peu téméraires, un peu risqués, mais alors en revanche offensivement c'est formidable, c'est un joueur qui peut jouer aussi milieu évidemment, qui a beaucoup de souhait d'aller vers l'avant, et là en l'occurrence ça a fonctionné, beaucoup d'agacement au Bayern, parce qu'on avait le match en main, parce que pendant une heure on a dominé, on a ouvert le score de façon logique, et comme s'en est plein l'entraîneur Hansi Flick derrière ce match, on a ensuite laissé filer, on n'a pas concrétisé les occasions pour prendre l'avantage réellement, avec plusieurs buts d'avance, et on s'est fait punir à l'arrivée, et ça fait deux fois que le Bayern se fait prendre, parce que c'était pareil contre Leverkusen, au match d'avant. Cet agacement, alors ça fait un peu les... Jalal, pour aller vite, mais ça fait un peu les vases communicants parce que au Bayern, là, on est dans une période d'agacement après l'euphorie des premières victoires d'Hansi Flick. Et à Dortmund, c'est exactement le contraire. On a eu un gros creux et un gros désespoir et on pensait que Lucien Favre pourrait peut-être s'en aller. Finalement, par la grâce notamment de Julian Brandt, qui a retrouvé vraiment un excellent niveau ces derniers jours à Dortmund, eh bien Dortmund a rebondi et espère, même s'il ne se fait pas trop d'illusions, espère que l'Inter National va se prendre les pieds dans le tapis cette semaine contre le FC Barcelone pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund, Jalal, reçoit Prague, mais évidemment dépend aussi d'un bon résultat du Barça contre l'Inter.
Fred, il reste pas beaucoup de temps, quelques minutes à passer avec toi. J'aimerais parler de deux sujets. Bien sûr, l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, mais d'abord ce triplé incroyable, le hat-trick d'un joueur de 38 ans, d'un joueur exceptionnel, d'un joueur magnifique dans tout, Joaquín.
Oui, alors juste simplement une précision par rapport à ce que vient de dire David, c'est pas le grand Barça qui sera aligné contre l'Inter.
On en a parlé, plusieurs joueurs et dans Lionel
voilà,
Messi.
Voilà. Ça c'est quand même important de le préciser.
Merci.
Bah, Joaquim, c'est la joie de cette Liga, c'est la démonstration que le football c'est pas si sérieux que ça, que le football on peut rigoler, on peut être vieux, on peut avoir de l'humour. Et être un fantastique joueur. À 38 ans et 140 jours, Joaquín est devenu le joueur le plus vieux à marquer un hat-trick en Liga. Il a dépassé un certain Alfredo Di Stefano, qui l'avait fait à l'âge de 37 ans et 255 jours. Voilà. En plus, il a mis en 20 minutes hein, son hat-trick. Et c'est un hat-trick qui a permis à cette équipe du Betis, dont il est le capitaine, dont il est aussi un petit actionnaire, de l'emporter, et un Betis qui était quand même mal en point il y a encore quelques semaines et qui avec des victoires comme celle d'hier remonte vraiment bien au classement pour être bien au chaud pour passer les fêtes. Et c'est drôle, c'est que Joaquim s'est mis en scène le soir en faisant semblant qu'il était fatigué, en disant oui maintenant vraiment je suis fatigué. Il dit non, je vous ai bien eu, je vais faire la fête maintenant. Voilà, enfin on lui pardonne tout, c'est vraiment le mec le plus sympa de la Liga. Et j'insiste, ça prouve que on peut faire ce métier de footballeur en étant professionnel sans se prendre au sérieux. Et c'est le cas de Joaquín Sánchez, auteur d'un triplé ce week-end et la vedette de la une de Marca, bien entendu, aujourd'hui. C'est pas si souvent que le Betis fait la une du grand journal sportif espagnol, mais à cause de Joaquín, ça le méritait bien.
Parlons justement de Ligue des Champions. On a deux minutes encore à passer ensemble. Dans le groupe D, la Juventus est sereine, qualifiée première de sa poule. La Juve qui se déplace à Leverkusen. Alors dans l'autre match du groupe, l'Atlético va se qualifier en cas de victoire contre le Lokomotiv Moscou. Les coachs généraux qui pourraient perdre gros en cas de mauvais résultat.
Ben, c'est-à-dire que pour être assuré d'être en huitième de finale, l'Atlético doit gagner contre le Lokomotiv Moscou. Alors, on dit sur le papier, ça devrait être bon. Sauf que pour gagner, ben, il faut marquer. Hein, c'est important. Hein, c'est une lapalissade, mais c'est justement le problème qu'a l'Atlético, c'est que l'Atlético ne marque pas de but. Voilà. C'est une équipe qui a encore fait match nul vendredi soir 0-0 à Villarreal. Et c'est une équipe, attention, qui est la 14e attaque de la première division espagnole. Donc c'est que du classement dans ce registre. 16 buts marqués en 16 journées de Liga. Donc il manque un certain Antoine Griezmann hein. C'est tout, l'efficacité, la tranquillité, le sang-froid de Griezmann face au but adverse, eh ben on l'a plus du côté de l'Atlético. On sait que Costa est blessé, que Morata est un bon joueur qui se bat, etc., mais qui n'est pas efficace, et que João Félix, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de chance, mais parce qu'il a encore fait un poteau ce week-end, mais João Félix est encore un petit peu vert, un peu friable, un peu jeune pour assumer sur ses épaules l'attaque de l'Atlético. Donc moi je suis un petit peu inquiet quand même pour l'Atlético parce que cette équipe des Colchoneros n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise parce qu'elle a ce qu'il faut pour le football, elle manque le but.
Merci beaucoup, Fred.
Adios.
Merci à David, à Simone, bien sûr, à Hervé et à Aurélien Devernois, mais aussi à Essam, notre réalisateur. Je suis entouré de supporters madrilènes et de consultants. Un consultant qui travaille à Madrid. Il n'est pas madrilène, mais il travaille, il habite à Madrid. C'est ça, mon cher Fred Hermès. C'est la fin de cette édition d'Après-Match. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao les amis.